privilège de revenir dans ta présence, d'apprécier ton nom, de glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous avons adoré et le peuple de Dieu dit Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bonjour, bien-aimés, asseyons-nous. Bonjour. Bienvenue à notre prière de midi. Alléluia. Nous croyons que c'est un après-midi pendant lequel le Saint-Esprit parlera encore à nos cœurs et à nos vies. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur met dans mon cœur de partager cet après-midi. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de nos bien-aimés qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a quelque temps, nous avons partagé sur un thème, il y a quelques mardis, nous avons partagé sur un thème que j'avais intitulé « La bataille contre les démons cachés ». Vous vous souvenez? Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer encore une fois de plus, toujours sur ce même thème. Alléluia. La bataille contre les démons cachés. Alors, au cours de ces derniers services que nous avons partagés, pendant lesquels nous avons partagé sur ce sujet, nous avons parlé des démons cachés. Nous avons dit que les démons cachés étaient des puissances qui se dissimulaient, des puissances secrètes. Et il nous a été donné pendant les autres moments où nous avons abordé ce thème, d'examiner le problème des démons cachés. Nous avons étudié la possibilité que l'Esprit de Dieu soit à l'intérieur de l'esprit d'une personne et que des mauvais esprits soient également à l'intérieur de son corps. Alléluia. Nous avons dit qu'un croyant pouvait avoir le Saint-Esprit dans son esprit et avoir des démons dans son corps. Nous l'avons vu avec l'histoire de 1 Samuel chapitre 19, avec l'histoire du roi Saül qui était rempli de l'esprit, mais pendant qu'il prophétisait, il se retrouvait à se mettre nu en même temps. Alléluia. Donc, alors, nous avons par la suite parlé de Saül, comme je l'ai dit, qui prophétisait et en même temps se mettait nu au point que les gens pouvaient dire, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Alléluia. Nous avons donc fait le constat à ce moment que deux esprits avaient pris le contrôle de Saul. Alors, nous avons parlé également de la possibilité qu'une personne remplie du Saint-Esprit se mette encore en colère. Nous avons vu que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, mais avoir l'onction de la dépression, avoir l'onction de la colère, du mensonge. Alléluia. Être une personne remplie de tristesse. Et une fois, elle se réjouit dans le Seigneur et une autre fois, elle est très triste et porte comme ça le manteau, le chapeau de l'inquiétude. Nous avons observé que cela était lié à une onction de la mauvaise inspiration. Nous avons observé également l'onction de maladie où une personne pouvait tomber malade tout le temps. Aujourd'hui, elle est en bonne santé, demain, elle tombe encore malade. Alléluia. Nous avons ensuite examiné la vie d'un homme en tant que temple de Dieu. Alléluia. Nous avons vu que l'homme était divisé en trois parties, corps, âme, esprit. Alléluia. Et que chacune de ces parties-là était également divisée en trois parties. Alléluia. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Et nous avons constaté que beaucoup de ces temples sont pollués. L'autre jour, il y a quelques semaines, le pasteur Emmanuel nous parlait des marchands qui étaient dans le temple. Et le Seigneur, il a fallu que le Seigneur entre dans le temple avec le fouet pour les chasser hors du temple. Et aujourd'hui encore, le corps de beaucoup de gens est rempli de toutes sortes d'esprits, de forces, d'oppression, de réclamations, de manipulations, alléluia, qui fait que leur joie n'est pas parfaite, leur paix n'est pas parfaite. Alléluia. Et donc, nous sommes comme ça, donc, à interpeller, à réclamer, à demander, à invoquer la puissance du Saint-Esprit pour être évacués de toutes ces mauvaises présences. Et donc, nous avons étudié tous ces aspects au cours des services derniers. Aujourd'hui, nous allons essayer de conclure, bien-aimés. Et à la fin de ce que nous allons dire, nous allons prier, parce que nous devons prier pour notre temple. Ce ne sont pas des prières douces, mais ça va être des prières assez violentes. C'est pourquoi nous devons commencer par couvrir nos vies dans le sang de Jésus. Amen. Dis avec moi, je couvre ma vie dans le sang de Jésus. Je couvre ma vie et ma destinée dans le sang de Jésus. Je couvre ma vie, mon futur dans le sang de Jésus. Je couvre ma vie, la vie de ma famille dans le sang de Jésus. Je couvre ma vie, la vie de mes affaires dans le sang de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier, bien-aimé? Ouvre ta bouche, prie. Commence à couvrir tout ce qui t'appartient dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, asseyons-nous. Alors, il est important ce matin, cet après-midi, de réaliser deux choses. La première chose que je voudrais que nous réalisons d'entrée de jeu, bien-aimés, c'est que c'est une tragédie lorsque vous êtes ignorant de votre problème. Alléluia. C'est une tragédie lorsque vous êtes ignorant de votre problème. Mais là, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est lorsque vous êtes ignorant que vous êtes ignorant de votre problème. Alléluia. Le pire, c'est lorsque vous êtes ignorant du fait que vous êtes ignorant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que vous êtes ignorant du fait que vous êtes ignorant. Et beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. Beaucoup de gens. L'autre jour, je partageais ce témoignage ici. Je suis allé encourager un frère à la prière dans sa cellule de prière récemment. Et je suis rentré, j'ai appelé un autre frère avec qui on est tous liés. Et j'ai dit, je ne t'ai pas vu. Je suis allé rendre visite à tel frère. Et il m'a dit, tu étais là-bas. J'ai dit, oui. Il dit, et tu n'as rien discerné de pas correct là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois discerner? Alléluia. Il dit, non, tu sais, le ministère aujourd'hui n'est pas une chose évidente. Tu sais, il y a des gens qui mettent la main. Autrement dit, il me disait que cet ami que nous avons en commun, parce qu'il fait ce qu'il a fait, il a mis la main quelque part. Or, lui-même n'a jamais commencé le ministère. Lui-même n'a même jamais fait une cellule de prière. Mais il critique celui qui fait une cellule de prière. Alléluia. Et de deux, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui se passe par la suite? Ce qui se passe par la suite, c'est que quand tu fais ça, bien-aimé, tu te bloques à la visitation. Parce que tu estimes que le vase ne peut jamais me bénir. Donc, tu es déjà exclu. De ce vase ne peut pas venir ma solution. Et du coup, tu es un ignorant du fait que tu es ignorant de ton problème. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas, qui refusent de croire qu'ils ont un problème. Qui refusent de croire. Et vous devez savoir que ça arrange le diable. Que tu ignores que tu as un problème. Ça arrange le diable. Plus tu refuses que tu as un problème, plus ça arrange le diable. Et le simple fait de ne pas reconnaître que tu as un problème, c'est que tu as déjà un problème. Alléluia. Tu as déjà un problème. Lorsque tu vas chez le médecin te dit comment tu vas. Tu dis non, tout va bien, il ne peut rien faire pour toi. Quel que soit le niveau de spécialité qu'il ait, il ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Et donc, il est important pour nous ce matin de réaliser que une des manières par lesquelles l'ennemi travaille contre la prospérité de sa vie, c'est en le gardant dans un état d'ignorance. Alléluia. Vous savez, l'ignorance n'est pas simplement le fait que tu ne connais pas. L'ignorance est également le fait de croire que tu connais, alors que tu ne connais rien. L'ignorance est également le fait de croire que tu as plus de compréhension que tout le monde. Tu es un ignorant. Dis à quelqu'un, tu es un ignorant. Amen. Tu es un ignorant. C'est pourquoi la sagesse, c'est quoi? Le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte. La crainte. Et la crainte, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Reconnaître que je ne suis rien sans l'autre. Reconnaître que je ne connais rien et que j'ai besoin de connaître. Amen. Et que j'ai besoin de connaître. Lorsque vous ignorez que vous êtes ignorant, l'ennemi a une emprise sur votre vie. Vous ne savez pas et vous ne savez même pas que vous ne savez pas. Et l'ennemi fait donc ce qu'il veut de votre vie. Alléluia. Alors, ouvrons notre Bible rapidement dans le livre de Somme 18. Somme 18, le verset 44, dans la version second, c'est le verset 45 au verset 46. Dans d'autres versions, on va le prendre, ça va être le verset 44 au verset 45. Amen, ça dépend des Bibles que vous avez dans vos mains. Ça peut être dans d'autres versions 44 ou 45. Dans une autre, c'est 45 à 46. Amen. Dans la mienne, c'est 45 à 46. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole? Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Est-ce que quelqu'un a un verset différent? Je vais dire, est-ce que tous les versets, tout le texte que vous avez répond au même texte? 45, 46. Amen. Alléluia. Alors, dans la version David, il est dit, dès qu'ils ont entendu de leurs oreilles, ils m'ont obéi. Les fils de l'étranger se sont soumis à moi en dissimulant. Les fils de l'étranger ont dépéri et ils sont sortis en tremblant de leur lieu caché. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. Observons ce texte dans ces deux versions. La version Louis Segonde et la version Darby. Amen. La version Louis Segonde dit simplement, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Alléluia. Alors, j'ai envie que nous réalisons ici que nous parlons des démons cachés. C'est ça, n'est-ce pas? Nous parlons des démons cachés. Alors, dans la version David, dès qu'ils ont entendu de leurs oreilles, ils m'ont obéi. Les fils de l'étranger se sont soumis à moi en dissimulant. En dissimulant, ça veut dire que quoi? En se cachant. Alléluia. En se cachant. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi comme des amis, mais ce sont des ennemis. Alléluia. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi comme des amis, mais ce sont des ennemis. Il y a des gens qui vont te parler le langage de la paix alors qu'ils sont en guerre avec toi. Ça, ce sont les démons cachés. Alors, il dit, les filles de l'étranger ont dépéri et ils sont sortis en tremblant de leur lieu caché. Leur lieu caché. Je voudrais que vous gardiez cette phrase. Forteresse dans la version David, c'est lieu caché. Alléluia. Lieu caché, lieu fermé, les lieux où vous ne saviez même pas qu'ils s'y cachaient, qu'ils s'y trouvaient. Alors, l'élément clé de la délivrance complète, bien-aimé, est donc le problème de ces démons cachés. Et de ces lieux cachés ou forteresses. Quels sont les lieux cachés où tes ennemis se dissimulent? Quels sont les lieux cachés où tes adversaires se camouflent? Alléluia! Quelles sont les attitudes, les comportements, les caractères qui sont une couverture pour les démons cachés dans ta vie? Alléluia. C'est une tragédie quand quelque chose commence à se manifester dans la vie de quelqu'un à un moment où il ne s'y attend même pas. Les esprits cachés peuvent rester dans une vie pendant 20 ans, 30 ans sans se manifester et un jour, ils apparaissent. Rappelez-vous, nous avons parlé la dernière fois du cas de Moïse qui a vécu toute sa vie avec une colère qui était cachée. La colère attendue au moment où il devait rentrer dans un moment d'élévation et de réussite totale dans sa vie pour pouvoir le disqualifier. Alléluia. Rappelez-vous, dans la vie de Samson, à un moment important de sa vie, il a tout perdu. Regardez Salomon. À un moment important de sa vie, il a dégringolé. Regardez Ruben. Il a commis un acte compliqué. Il a couché avec la femme de son père. Son père n'a rien dit. Mais le jour où son père est sur le point de mourir, Genèse chapitre 49, son père prononce une parole négative sur lui. Au moment où on vient recevoir la bénédiction, lui, au lieu de la bénédiction, il reçoit quoi? La malédiction. Son père, cet esprit a attendu le moment critique de sa vie. C'est ça, l'activité des démons cachés. Ils ne sont pas là pour se présenter au jour, au quotidien dans ta vie. Non, leur activité serait vaine. Leur mission serait vaine. Ils sont là pour attendre les moments importants. Les moments où votre vie doit rentrer dans une saison d'élévation, dans une saison de grandeur, pour pouvoir faire dégringoler votre course. C'est quoi Paul le dira d'ailleurs dans Galates chapitre 5. Lorsque vous allez au verset 6, il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Vous couriez bien. Alléluia. Il dit, votre course était normale. Voici des gens qui ont bien commencé. Voici des gens qui ont bien engagé la course, qui ont bien engagé le projet, qui ont bien engagé leur activité, leur vie spirituelle. Mais à un moment donné, Satan s'est mis sur le chemin et a arrêté. Et à arrêter. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça veut dire, cette influence vient de celui qui ne vous a pas appelé, qui est Satan. Alléluia. Alléluia. Les démons, donc, les esprits cachés peuvent rester donc dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut se comporter correctement pendant longtemps. Et tout à coup, les démons qui se cachaient dans sa vie surgissent. Vous allez voir des gens qui vont être humbles. Mais un jour, un seul jour de colère va changer toute leur vie dans le négatif. Dans le négatif. Mais la personne était bien. Alléluia. La personne s'est mouvée. La personne était bien. Peut-être dans l'entreprise, peut-être dans la famille, peut-être à l'église, peut-être dans ses relations. Mais un jour, un seul jour. Regardez Vasti. Vasti, un seul jour, elle a perdu le trône. Elle a perdu le trône. Elle a juste dit une chose, que je ne suis pas un meuble qu'on déplace pour aller présenter comme un trésor. Je suis aussi quelqu'un. On dit, ok, c'est bon aujourd'hui. Amen. Elle croyait que c'était la blague. Le décret est sorti le même jour. Le décret est sorti le même jour que plus jamais elle ne sera plus reine. On dit, ah. Le roi dit qu'écrivez un nouveau décret. On dit, oui. À partir d'aujourd'hui, on enlève la capacité de règne. On enlève même là où elle doit résider. Même le palais, on enlève. On l'envoie en exil. Et le même jour, on cherche la remplaçant. Tu vas dire, non, c'est moi qu'on en voulait. Non, c'est le démon caché qui t'attend au moment le plus fort. Bien-aimé, il te fait faire une petite erreur. Cette erreur, si Dieu ne t'aide pas, tu vas, la culpabilité va t'emporter avec. Alléluia. Combien de fois Judas a volé dans les caisses de l'église? Combien de fois Judas avait pris de l'argent? Vous ne croyez pas que Jésus savait ce que Judas faisait. Il gardait l'argent. Il connaissait le cœur de Judas. Mais il y a eu une faute de trop. Une seule faute de trop. Le jour-là, il a voulu remporter le jackpot. Il a voulu tromper tout le monde et avoir l'argent. Et Jésus échappé. Mais ça ne l'a pas lâché. Ce jour-là, Jésus lui a dit que c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et ce jour, la vie de Judas n'a plus été le même. Judas est seulement pour se récompenser, il allait se suicider. Bien-aimé, il y a des forces comme ça qui sont tapies dans l'ombre.
qui sont tapis dans des lieux cachés de votre destinée, qui sont tapis dans les lieux cachés de votre marche, de votre progression, et attendent au moment où vous êtes sur le point de saisir la chose la plus importante, ce pourquoi vous priez depuis longtemps, pour vous ramener au point de départ. Je déclare, je décrète cette journée, que l'Éternel expose cela au nom de Jésus. Que l'Éternel expose cela au nom de Jésus. Que l'Éternel expose cela au nom de Jésus. Tout ce qui peut t'arrêter, tout ce qui peut te bloquer, tout ce qui peut te manipuler au moment le plus important de ta vie pour t'amener au point de départ, je décrète et je déclare que l'Éternel te sépare. Que l'Éternel te sépare. Que l'Éternel te sépare au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et beaucoup de destinées se retrouvent à ce niveau-là. Rappelez-vous de l'histoire de notre bien-aimé Jephté. Est-ce que c'est Jephté? C'est Jephté qui a donné sa fille à... Alléluia. La prophétie sort que Jephté, Dieu te donne la victoire. Il dit amen. Dieu te donne, il délivre tes ennemis. Jephthé dit amen. Jephthé se lève, il va en guerre. Mais pendant qu'il part, il dit comment? Peut-être la prophétie là n'est pas bien. Je vais renforcer ça. Oh Dieu, si je rentre vivant de cette guerre, le premier qui sort pour m'accueillir, je te le livre. Quel était ce vœu insensé? Quel était ce vœu? Dieu n'a-t-il pas parlé? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui veulent ajouter des choses sur ce que tu as dit. Et ça devient préjudice dans leur vie. Ça devient problème dans leur destinée. Et ils se retrouvent au point de départ, ils en veulent à Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis? Ta bouche a parlé. Il a pris un vœu insensé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas prendre un vœu à la légère. Il a ouvert la bouche pour une chose. Alors que Dieu l'avait dit, je t'ai donné la victoire. Bien-aimé, si Dieu te dit qu'il t'a donné la victoire, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas encore prendre un engagement pour faire quoi avec? Est-ce que Dieu avait demandé sa fille? Est-ce que Dieu avait demandé un sacrifice? Est-ce que Dieu avait demandé un sacrifice? Et ça, c'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Il voulait montrer à Dieu qu'il pouvait faire quelque chose, qu'il pouvait participer à la réussite de sa vie. Personne de nous ne peut participer à la réussite de sa vie. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. C'est écrit. Regardez, regardez Barak. Déborah lui prophétise la victoire. C'est bon. Déborah dit, l'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis. Il dit, merci, prophétesse. Il dit, mais prophétesse, ok, Dieu me livre tous mes ennemis, mais il faut que tu partes avec moi. Dieu te livre. Dieu est plus grand que Déborah. Dieu est plus grand que ton pasteur. Dieu est plus grand que ton apôtre. Dieu est plus grand que ton prophète. Si l'Éternel est avec toi, qui peut être contre toi? Mais si je suis avec toi, tout le monde peut être avec contre toi. Tout le monde peut être contre toi. Alléluia. Et Déborah va ajouter à la prophétie. Elle va ajouter que comme je vis avec toi, tu vas avoir la victoire. Mais ce qui devait faire asseoir ton règne, c'est une femme qui va l'avoir. C'est une femme. Parce qu'il n'a pas eu assez confiance en l'Éternel. Et beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation où ils n'ont pas assez confiance, où ils n'ont pas assez foi dans les voies du Seigneur pour leur vie. Dans les voies du Seigneur pour leur vie. Alléluia. J'ai une de mes filles, elle nous suit certainement, la sœur Martine. Quelques années en arrière, sa fille est partie en France avant qu'elle. Sa fille est venue en France par l'entremise de sa sœur. Sa sœur est française. Sa soeur fait les formalités, mais elle n'a pas eu les papiers, bien-aimé, une petite enfant. Elle est venue comme sa fille, mais les papiers n'ont pas marché. Martine est arrivée en France, elle s'est battue, aucun papier n'a bougé. Chaque jour, on a prié. Un jour, je lui dis, Martine, elle dit, oui, apôtre. J'ai dit, le Seigneur me dit de te dire, d'être armé de foi. Dit la foi. Comment Dieu peut-il me parler de foi? Comment Dieu peut-il me parler de... Il dit la foi. Gloire à Jésus, qu'elle a armé son cœur de foi parce que les adversités qui sont venues autour d'elle lui démontraient que cette situation ne pouvait pas se produire à son avantage et qu'elle devait être expulsée, elle et sa fille. Et je suis heureux de vous dire ce matin, sa fille vient d'avoir tous ses papiers. Alléluia. Mais ça a pris du temps. Elle m'a écrit aujourd'hui pour me dire, apôtre, je t'écris pour te dire merci pour tout ton accompagnement. Parce que chaque fois qu'on priait, la seule parole qui ne faisait que revenir, c'est garde la foi, garde la foi, garde la foi, garde la foi. Ces documents-là, je les vois signés. Garde la foi. Garde la foi. Parfois, lorsque nous sommes engagés dans le processus de notre destinée, nous voulons voir. Nous voulons entendre. Dieu dit, ferme tes yeux, ferme tes oreilles, avance. Tu dis non. Et le jour où tu me vois, c'est le jour où tu chutes. C'est le jour où tu chutes. On dit, avance. Mon juste vivra par la foi. 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 Et ça a pris combien d'années? Ça a pris 4 ans. Document après document. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Quelqu'un peut se cacher correctement pendant longtemps. Et tout à coup, les démons qui se cachaient dans sa vie surgissent. Il s'agit là d'un problème très grave. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Tous les ennemis conscients et inconscients qui s'acharnent à voler ta joie. Pendant que tu dis un puissant Amen, il meurt au nom de Jésus. Il meurt au nom de Jésus. Il meurt au nom de Jésus. Ces ennemis ne se répartissent en plusieurs catégories. La Bible nous parle de 24 ennemis. Nous allons en parler. 24. Je vous en citer quelques-uns. Si on finit, le nombre qu'on va s'arrêter, on va s'arrêter. Alléluia. Et beaucoup de destinées se retrouvent à ce niveau où l'ennemi caché vient avec le découragement. Le moment où tu te sens assez fort, c'est le moment où tu te sens assez découragé. Le découragement entre. Et tu te dis, ça ne vaut plus la peine. J'ai trop gêné. Oui, j'ai regardé une image l'autre jour. Maman m'a montré une image sur son téléphone. Deux personnes qui, peut-être vous avez vu cette même image, ils sont en train de pomper l'eau. Et l'un, ça paye jusqu'au fond. Et l'eau est en bas. Et il pompe, l'eau vient. Mais seulement, la distance est grande pour qu'il réalise que l'eau arrive. L'eau est juste à quelques minutes, mètres de son tuyau. Donc, il le pousse, l'eau sort rapidement. Et ça remplit sa cuvette. Pendant que l'autre, il n'a qu'à persévérer pour que l'eau arrive. Quand il voit pour l'eau sortir, il abandonne son tuyau. Il passe sur l'autre. Et il dit, parce qu'il lui restait un peu d'eau, l'eau aussi ne sort plus là-bas. Or, pour lui était la source la plus profonde. Là où il y avait de l'eau, et l'eau là devait durer. Mais parce qu'il a manqué de persévérance, l'ennemi l'a attaqué avec quoi? La persévérance. Avec l'impatience. Avec l'impatience. Alléluia. Parfois, nous estimons avoir beaucoup prié. Nous estimons avoir beaucoup jeûné. Nous estimons avoir trop visiter l'église. Alléluia. Et que normalement, sur la base de tout cela, Dieu doit nous exaucer. C'est pas vrai? Hein? C'est pas vrai? Je ne dis plus rien. Alléluia. Donc, sur la base de mon sacrifice, j'ai trop sacrifié à l'église. J'ai donné mon service. J'ai donné mon argent. J'ai donné ceci. J'ai donné, Seigneur, s'il y a le rang, je suis en haut. Alléluia. Et parfois, on a l'impression que Dieu est juste. Parce que quelqu'un à côté ne fait pas tout ce que nous faisons. Il est exaucé apparemment. Et nous, là, on est là, on pousse, on pompe. L'eau est loin, mais l'eau vient. Mais on ne se rend pas compte parce que c'est pas la foi. Mais on regarde l'autre. Son eau est juste à un mètre. Il pompe l'eau, son dit, ah, Dieu, tu es injuste. Dieu dit, continue à pomper. Tu n'as pas vieilli, ça va durer. Tu dis, ça va couler déjà. Je prie pour toi. Que le Seigneur vienne au secours de ta foi. J'ai dit que le Seigneur vienne au secours de ta foi. J'ai dit que le Seigneur vienne au secours de ta foi. J'ai dit que le Seigneur vienne au secours de ta foi. Au nom de Jésus. Alors, nous parlons des 24 ennemis. Des 24 démons qui adaptent notre progression. Certains ne se manifestent pas tant que la personne n'est pas mariée. Certains d'autres peuvent ne pas se manifester jusqu'à ce que la personne gagne beaucoup d'argent. Certains peuvent ne pas se manifester tant que la personne n'a pas quitté le pays. Certains peuvent ne pas se manifester avant que la personne ne soit sur le point de faire quelque chose de joyeux. Voyez? L'autre jour, j'ai eu l'appel de mon fils Michael depuis le Maroc. Et il me dit, papa, j'ai un souci. J'ai dit, c'est quoi le souci? Il me dit, tu te souviens mon bras qui s'était brisé au Cameroun? Vous vous rappelez l'accident qu'il avait eu? L'os s'était brisé. Et on avait fait un plat. Et j'avais prié, l'os est rentré. Au point où le médecin, le chirurgien n'avait plus trouvé nécessaire de faire un certain nombre de travail dessus. On avait fait une radio et tout était rentré dans l'ordre. Il me dit, tu imagines que j'arrive ici au Maroc. Oh, j'entre dans mon nouvel appartement pour attendre les cours. La douleur devient vive au point où le bras devient gros seul. Vous voyez? C'est-à-dire que ce genre de force satanique qui t'attend au moment où tu entres dans ta saison de bénédiction. Il dit, bon, alléluia. Il dit, je vais voir comment tu vas manger ça, tu vas sourire. L'amertume. Cette nuit-là, je lui ai dit, va chercher l'huile de cuisine. Est-ce que tu as de l'huile dans ta cuisine? Il dit, oui, papa, j'ai béni l'huile. J'ai dit, oint ton bras et prie de cette manière. Cette terre sera ma terre de bénédiction. Les mots du Cameroun, de Bangui, ne me suivront pas ici. Ça reste à la frontière. Alléluia. Ça reste là-bas à la frontière. Ici, je commence une nouvelle histoire. C'est important. Il y a des forces qui vont attendre le jour où tu vas te marier. Il y a des forces qui vont attendre le jour où tu vas être fiancé. Il y a des forces qui vont attendre le jour où tu vas avoir ton premier agent. Il y a des forces qui vont attendre le jour où tu vas avoir ton visa. Il y a des forces qui vont attendre le jour où tu vas, je ne sais pas moi, tu vas avoir ton bébé, le jour où tu vas tomber enceinte. Il y a des forces qui vont attendre. Le jour où ton premier enfant va avoir son diplôme. Le jour où la bagarre générale va commencer. Tu vas dire, mais je croyais avoir tout vu. Je croyais avoir tout entendu. Mais là, ça devient compliqué. Alléluia. Que le Seigneur te donne le discernement. 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 Alors, je prie pour toi. Toute puissance démoniaque qui attend le jour de ta joie est enterrée vivante. 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 Au nom de Jésus. Le jour où Saül a l'onction pour être roi, c'est le jour où il s'est déshabillé. Ce n'est pas normal. Le jour où Saül reçoit l'onction royale. À associé à l'onction prophétique. Le jour-là, ça parle de prophétie, pas que c'est déshabillé. C'est normal, ça. On va dire action prophétique. Quelle action prophétique? Dieu fonctionne comme les meilleurs Satan. Alléluia. Quand ça prend les meilleurs Satan, là, vous voyez, c'est des habits, non? Hein? Il faut les arrêter. Devient folle. Tombe partout. Ils parlent n'importe comment. Si on ne les arrête pas, tu vas les retrouver en banga. Alléluia. Bien aimé. Comme je l'ai dit, il y a 24 ennemis qui se cachent dans la vie des hommes. Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de les couvrir tous. Mais il est certain qu'il se trouve dans les Écritures. Premier ennemi, les dominations. Alléluia. Les dominations. L'ennemi numéro un qui peut se cacher et troubler une vie. La Bible en parle dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. L'apôtre Paul parle de ça. Il dit que nous luttons contre les dominations. Alléluia. Les dominations. Vous les verrez également dans le livre des Colossiens, chapitre 1, le verset 16. Alléluia. Il parle là-bas des dominations. Ce sont des esprits à qui l'on dit, ou à qui l'on ne dit pas de sortir. Oh, tu ne peux pas chasser une domination au nom de Jésus, pas tant. Amen. Tu ne peux pas. Il ne s'agit pas de les faire, de les dire de sortir. Il faut les faire la guerre. Alléluia. Il faut les faire la guerre. Regardez cette domination dans le livre de Daniel, chapitre 9. Lorsque Daniel prend le jeûne pour savoir la volonté de Dieu, la Bible dit que l'ange vient le visiter le 21e jour et lui dit ceci, que depuis le premier jour que tu as eu à peur, Dieu t'a insoucié. Mais il y avait un problème. Il y a un prince là-bas qui a arrêté l'ange qui était envoyé pour répondre à ta vie. Alléluia. Une domination. C'est pourquoi chaque fois que beaucoup de gens, récemment, une soeur me demandait, elle me disait, après, je crois que c'est ma saison de bénédiction et je croyais que c'était ma saison de bénédiction et j'ai pris un congé d'un an pour pouvoir m'organiser pour ma famille et qu'on trouve une nouvelle maison où nous allons nous relocaliser. Mais on a eu tellement de problèmes que voici l'année qui est en train de finir sans que même la raison pour laquelle j'ai pris le congé, on a pu atteindre les objectifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'était pas la saison? Je lui ai dit, ça peut être la saison. Mais si tu ne comprends pas certaines réalités spirituelles, tu vas croire que ce n'était pas la saison, bien-aimé. La saison de ta visitation n'est pas une saison n'est pas une saison pendant laquelle tu n'as aucune bataille. Au contraire, tes batailles doublent même à cette période-là. Alléluia. Tes batailles triplent même. Et je lui ai parlé de Daniel chapitre 9. Je lui ai parlé de Néhémie chapitre 1. Quand Néhémie a eu à peur de prendre le jeûne et d'aller pour la reconstruction, Sambalat, Tobija. Tous ces gens-là se sont levés pour le contester. Alléluia. Alors, il y a des dominations qui ne vont se tenir que lorsque tu es sur le point de réaliser un programme de Dieu pour ta destinée. Pourquoi? Parce que de ce programme va dépendre l'avenir de toute la famille. De toute la famille. C'est là où les dominations opèrent. Les dominations ne t'attaquent pas pour toi, ils t'attaquent à cause de ta famille. Tu es la clé majeure. Alléluia. Tu es la clé majeure. Alors, ils t'arrêtent. Ils t'arrêtent. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième ennemi que nous devons confronter, les autorités, bien-aimés. Les autorités, c'est encore un autre niveau de démons. Alléluia. Des démons, les autorités, semblables toujours aux dominations. Troisième niveau, l'apôtre Paul, il parle des dominations, il parle des autorités. Troisième niveau, il parle des princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Des princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez? De ce monde des ténèbres. C'est-à-dire que ce sont des princes qui ne vivent que dans un, dans un lieu ténébreux. Ils ne vivent que dans des endroits obscurs, alléluia, de ta vie. Si par exemple dans ta vie, tu as des domaines obscurs, c'est-à-dire que quoi? Il y a des domaines où tu mets une double vie. C'est là-bas que ces esprits se retrouvent. Hein? Alléluia. Si dans ta vie, tu as gardé des départements qui ne voient pas la lumière de la parole de Dieu, les princes des ténèbres là, ces esprits de ce monde des ténèbres viennent habiter à cet endroit. Alléluia. Alléluia. Vous êtes fatigué? Je peux arrêter, hein? Parce que je vois des gens épuisés. Amen. Alors je prie pour toi. Ce choc dans ton village qui t'a poursuivi jusqu'à la ville, je l'enterre maintenant au nom de Jésus. Je l'enterre maintenant au nom de Jésus. Je l'enterre maintenant au nom de Jésus. Quatrième esprit, démon caché, bien aimé. L'apôtre Paul parle en quatrième lieu, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, ce genre d'esprit ne vit que dans une réalité céleste dans ta vie. L'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Ça veut dire que ces démons-là opèrent aussi au niveau là où tu es assis dans la réalité surnaturelle. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu peuvent vivre des bénédictions sur le plan surnaturel, mais lorsqu'ils se réveillent, ils ne vivent pas cette chose-là. Parce que sur ce niveau céleste, parce que c'est au niveau, c'est là où tu es assis dans le lieu céleste, que tu décides des réalités de ta vie sur la terre. Alléluia. Amen. Cinquièmement, bien-aimés, nous avons les anges déchus. Ce sont des ennemis. Ce sont des forces qui s'opposent aux hommes. Ce sont des anges qui ont été déchus à l'origine, alléluia, de leur force, de leur capacité, à cause de la désobéissance à Dieu. La Bible parle d'eux dans le livre de Genèse chapitre 6, alléluia. La Bible dit que les fils des hommes vont aimer les filles des hommes. Les fils de Dieu vont aimer les filles des hommes et vont aller avec elles. Et là, on va voir le premier contact entre les hommes et les démons. Alléluia. Et les esprits méchants. Les hommes et les... Et c'est là où vient pour certains le fondement des maris spirituels. Amen. Et des femmes spirituelles. Alléluia. C'est là où le fondement de cet enseignement vient. Qu'à partir de ce moment, les hommes et les femmes, les êtres spirituels et les hommes ont eu des contacts avec ces êtres et ont mis au monde, la Bible dit que dans ce temps-là, il y a eu des héros, alléluia, des héros, que l'histoire racontait l'histoire des héros. Dans l'histoire, il y avait ces gens-là qui ont vécu, donc qui étaient la progéniture de ces relations-là. Alléluia. Et donc, si vous voulez, et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, les anges déchus sont aussi à l'origine de la mode vestimentaire dans le monde. Alléluia. Ils sont aussi à l'origine de la mode vestimentaire. L'autre jour, je suis tombé sur une vidéo, une dame parlait, elle était choquée parce qu'elle était dans un aéroport, amen, en train de prendre le vol pour aller dans un autre état, aux États-Unis, et ils étaient tous alignés pour attendre le rang pour passer au contrôle. Et il y avait une dame, deux hommes après elle, qui était à moitié nue. Amen. Tout son derrière était dehors. Et elle, et ça la gênait pas, elle était là, elle attendait son tour. Et la dame filmait en disant que on est dans quel monde? Alléluia. On est dans quel monde? Aujourd'hui, on va dire non, c'est la mode. Aujourd'hui, de moins en moins, nos enfants s'éveillent. Allez sur les réseaux sociaux. Allez sur TikTok. Vous allez les voir là-bas danser nus. Vous allez voir les compétitions. Ils appellent ça les challenges. Challenge des seins nus. Challenge des fesses nues. Challenge du corps nu. C'est là-bas. Alléluia. Alléluia. Il y a un pays qui vient d'arrêter le Sénégal. Le Sénégal vient d'arrêter TikTok dans son pays. Le Sénégal. vient d'arrêter. Ils ont dit que si TikTok ne change pas les algorithmes pour leur pays, ils n'auront plus TikTok au Sénégal. Amen. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça accélérait la dépravation des mœurs. Ça accélérait. C'est devenu un moteur de comment on dit ça? Un moteur pour promouvoir les mauvaises choses. Alléluia. Pour promouvoir la drogue. Pour promouvoir. Il y a eu un challenge une fois, quelques années, je ne sais plus si c'est un an, où les gens buvaient le carburant. Ils dansaient en buvant le carburant. Et il y a une jeune fille qui, en buvant, elle s'est intoxiquée, elle est morte. En direct. Il y a une autre qui a fait le challenge aux États-Unis. Elle a mis le, comment on appelle ça, la super glue sur ses cheveux. Et la chevelure est calée. Donc, tous les cheveux se sont collés. Elle a porté plainte à l'entreprise. On a dit, c'est la super glue. Ce n'est pas pour, comment vous appelez ça, pour défriser les cheveux. Elle dit non, l'entreprise aurait dû marquer qu'on doit défriser, on interdit pour défriser les cheveux. Donc, on doit trouver la. Et on a appelé les spécialistes pour dire comment on peut faire pour dégreffer ses cheveux. Et un spécialiste a dit le seul moyen, c'est arracher toute la peau de sa tête. Soit elle reste comme ça avec, soit on dégreffe. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut avoir les vues. Les vues. Les vues. Sa mère disait à la maison à maman, j'ai dit, tu sais ce que Internet est venu apporter? Internet est venu promouvoir les cancres à l'école. Quand tu ne fous rien à l'école, tu pars, tu as ton téléphone, tu deviens influenceur. Alléluia. Si tu es intelligent, va à l'école. Elle au probatoire, elle au bac, je veux voir. Amen. Elle la licence, elle au doctorat. Quand l'école t'a dépassé, tu as un influenceur. Et c'est ça, les anges déchus. C'est ça. Le monde est en train d'aller à la perdition. Alléluia. Et nous, les enfants de Dieu, on se laisse entraîner. À l'intérieur. Nous aussi, on like, on aime, on partage, on commente. Nous qui sommes supposés être la lumière, on n'y est pas. Sixième, esprit caché. Les démons eux-mêmes. Alléluia. Les démons, ce sont ceux à qui vous pouvez dire de sortir, vous pouvez chasser les démons de votre vie. Alléluia. L'avarice, le mensonge, la peur, la calomnie, toutes ces choses sont des démons. Ce sont des démons, la haine. Septième ennemi qui se cache dans nos vies. Les trônes. Alléluia. Les trônes. Les trônes. Vous devez savoir que les trônes, ce sont des forces. Amen. Alléluia. Tu prends un exemple. Regardez dans nos villages. Ce n'est pas celui qui s'assoit sur le trône qui est puissant. C'est le trône qui lui donne la puissance. C'est pourquoi parfois on dit, tu n'es pas assis sur la chaise. Pourquoi? Et la chaise là va te combattre. Pourquoi? Parce que sur cette chaise est assis quelqu'un de spirituel. Alléluia. Jésus lui-même, sa puissance est venu du fait qu'il a été assis à la droite du Père. Amen. Assis sur son trône. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Alléluia. Il est assis sur son trône et il règne. Alors, les trônes, savez-vous qu'un être humain peut avoir un trône de ténèbres à l'intérieur de lui-même? Il y a des gens bien-aimés qui ont été dédicacés pour un trône. Même s'ils refusent de venir s'asseoir sur ce trône, le trône va le suivre partout où il va. Alléluia. Le trône va le suivre. Le trône va le combattre.
jusqu'à ce qu'il revienne s'asseoir sur ce trône. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me souviens du témoignage du docteur Dicko Lukuya. Il racontait ça. Il disait qu'un jour, un des pères de la délivrance au Nigeria, et à cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui où, quand on veut prendre un temps de délivrance, on sait comment opérer, on chasse les esprits, tout ça. Amen. Il dit à cette époque-là, il s'appuyait juste sur le verset où Jésus dit que ce type de démons ne sort pas le jeûne et la prière. Donc, du coup, on te mettait dans un temps de jeûne et tous jeûnaient avec toi. Et on jeûnait, on jeûnait, on jeûnait. Il dit le troisième jour, ce père-là est venu, il voulait manger. Et pendant qu'il voulait manger, Dieu ouvre ses yeux. La dame avec qui ils étaient en train de jeûner, Dieu lui montre un trône assis en elle. Et sur ce trône, un homme, un démon assis dessus. Et Dieu lui dit, tu es prêt à manger et laisser le trône ou bien tu veux finir le jeûne jusqu'à ce que ce trône tombe. Il a pris la nourriture, il l'a mis de côté, il a continué le jeûne jusqu'à ce que le trône ait tombé de la vie de cette femme. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi. S'il y a un trône que l'ennemi a établi dans ton corps, un trône que l'ennemi a établi dans ton âme, un trône que l'ennemi a établi dans ton esprit, j'ordonne que ce trône prenne feu au nom de Jésus. J'ordonne que ce trône prenne feu au nom de Jésus. J'ordonne que ce trône prenne feu au nom de Jésus. J'ordonne que ce trône prenne feu au nom de Jésus. Alléluia. Sois-toi bien-aimé. Un autre esprit qui se cache. Les scorpions spirituels. Les scorpions spirituels. Dans Luc 10, 19, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Les scorpions. Il y a des scorpions spirituels qui piquent les gens et mettent du poison dans leur corps. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il est tragique que tant de gens marchent sans savoir qu'ils ont été piqués par des scorpions. Ils ont été piqués par des scorpions. Ce sont des forces sataniques qui rampent dans la vie des gens. Tu ne les verras pas facilement. Tu ne les verras pas rapidement. Parce qu'eux, ils rampent. Ils rampent. Alléluia. Un autre ennemi caché dans nos vies. Nous allons le trouver dans le livre, dans le Psaume 74, le verset 13 au verset 14. Le Psaume 74, le verset 13, le verset 13 à 14. La Bible parle de cet ennemi comme le Léviathan. Amen. Dans le Sémeur, il parle du Léviathan. Dans le Louis Segond, il parle des monstres marins et il parle de crocodiles. Alléluia. Il parle de monstres marins et il parle de crocodiles. Alors, c'est un démon puissant qui vient des eaux, qui vit dans les eaux. Alléluia. Qui vit dans les eaux. C'est quoi un des ennemis qui sponsorise la perversité dans la vie des hommes? C'est le Léviathan. Alléluia. Alléluia. C'est ce démon-là qu'adorait Pharaon. Quand Ézéchiel, Jérémie parle, il dit grand crocodile au milieu de tes eaux, grand crocodile. Grand crocodile, Pharaon, grand crocodile, il parle du Léviathan. Le Léviathan, c'est un crocodile géant. Alléluia. C'est un crocodile géant. En Côte d'Ivoire, on dit que le président Oufouette, derrière le palais présidentiel, avait un lac artificiel dans lequel il élevait des crocodiles. Et on dit qu'en son temps, tous ses opposants qui le gênaient un peu, il les amenait là-bas, il donnait ses crocodiles avec. Jusqu'aujourd'hui, les crocodiles la vivent. Ils sont encore vivants aujourd'hui.
Alléluia.
J'ai le privilège d'entrer dans le palais présidentiel, le musée présidentiel. Et ce qui était étonnant, c'était que on a fait une image du fouet. Frère, si quand tu entres, tu vois le type là, tu crois qu'il est vivant. Tu peux t'arrêter et fuir. Parce que c'est tellement, je ne sais pas comment ils ont fabriqué ce type-là, mais c'est comme si c'est lui. Et il est assis sur le trône, et sous le trône, il y a un bouc. Amen. Et sous le bouc, il y a un éléphant. Et s'il y a l'éléphant, il y a le crocodile. Et c'est là où j'ai compris qu'en réalité, le vrai totem de la Côte d'Ivoire n'est pas l'éléphant. C'est le bouc. Amen. C'est le bouc. Et sur ces deux côtés comme ça, bam, bam. Et quand vous allez à la cathédrale, il y a un endroit où on a dessiné Jésus à table avec les 12 disciples. Et on a mis au fouet de au dernier, le 13e apôtre. Amen. Lui-même, il est comme ça. Il est à la table du Seigneur. Amen. Et c'est lui qui a fait le dessin. Lui-même s'est dessiné à côté à la table. C'est-à-dire qu'on dit que pour le remercier, le Vatican a permis qu'on dessina son visage là-bas. Amen. C'était une manière de l'honorer aussi. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet homme était d'un mysticisme incroyable. Quand tu rentres dans le musée, tu te rends compte que même la basilique, c'est-à-dire que quand le guide vous amène, il dit, mettez-vous ici au centre, regardez au toit. Vous regardez, vous voyez des images qu'il a encastrées dans les dessins. Vous allez dans le palais, on dit, regarde, après il dit, mettez-vous à côté, fixez comme ça, vous allez voir des images incroyables. Vous allez voir que tous ces endroits, il a dédicacé ça à des forces. Il a dédicacé ça à des forces. Ce monde-ci, ce n'est pas un monde ordinaire. Seuls ceux qui marchent comme ça croient que tout va bien, rien ne va. Le monde-ci est compliqué plus que ce que vous croyez. Alléluia. Amen. Dixième ennemi. Nous parlons ici des corps. Ah oui, les corps. Rappelez-vous dans le livre de Zacharie, chapitre 5. Dieu montre à Zacharie des corps qui avaient pour mission de disperser le peuple d'Israël, de Juda, et de les empêcher de relever la tête. Alléluia. Il y a des forces, bien-aimées, qui vont toujours te garder esclave, qui vont tout faire pour que jamais tu n'aies une certaine indépendance financière, émotionnelle, sentimentale, psychologique, mentale, je ne sais pas moi. Alléluia. Chaque fois, tu dois mendier ta paix, tu dois mendier ta joie. Ce sont ces genres de forces. Les corps. Alléluia. Les corps. Dans la tradition bantou, les corps sont le symbole de la puissance. Alléluia. Lorsque vous allez dans le livre de Luc, chapitre 1, même Jésus, on le décrit comme une corps. Amen. Il a suscité une corps en Israël. Une corps. Jésus est une corps. Luc, chapitre 1. Alléluia. Jésus est une corps. Alors, si aujourd'hui, nos parents, nos ancêtres buvaient et mangeaient dans des corps, transmettaient leur héritage au travers des corps, c'est une réalité surnaturelle. Alléluia. Je ne sais pas quel corps ne t'empêche de prospérer. Je ne sais pas quel corps ne t'empêche de lever la tête. Je décrète que
que la corne en Jésus, la corne qui est Christ, se lève pour toi et conteste ses puissances au nom de Jésus. Et conteste ses puissances au nom de Jésus. Et conteste ses puissances au nom de Jésus.
Voyez, le livre de Luc chapitre 1, la Bible nous dit que ces cornes ont deux missions.
Alléluia.
Ont deux missions.
Ces cornes
deux missions. La venue de Jésus a deux missions. Allons-y dans le livre de Luc, chapitre 1. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, tu es fatigué.
Alléluia.
Le verset 71.
Le verset 71. Il dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent.
Luc, chapitre 1, le verset 71. Amen. Le sauveur ici, c'est la corne.
La corne. La corne.
Un sauveur qui nous délivre. Ça veut dire que cette corne a pour but de te délivrer de tes ennemis et de la main de ceux qui te haïssent.
La pauvreté des haïs, tu sais ça?
La pauvreté des haïs.
Tu ne savais pas?
La pauvreté des haïs.
Il ne veut même pas que tu souris.
Tu ne te rends même pas compte.
Il fait tout pour que tu sois toujours dans le manquement.
C'est l'ennemi qui te hait.
À cause de lui, tu ne peux pas bien payer ta maison. À cause de lui, tu ne peux pas bien te soigner. À cause de lui, tu ne peux pas bien manger. À cause de lui, tu ne peux pas bien t'épanouir.
C'est pourquoi tu dois haïr ce type d'ennemi.
Corps, corps.
Dieu a parlé à Zacharie sur les cornes.
Il dit, ces cornes-là, voici leur mission. Ils viennent pour te disperser. Ils viennent pour t'empêcher de lever la tête. Je prie pour quelqu'un. Toute corne maléfique de la maison de ton père, toute corne maléfique de la maison de ta mère, toute corne maléfique de ton mari ou de ta femme qui ne veut pas que tu lèves la tête, prends feu maintenant au nom de Jésus. 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 Prends feu maintenant au nom de Jésus.
Je laisse comme ça. On avance. Vous notez.
Un autre ennemi caché.
La Bible parle de cet ennemi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 8.
Les chefs de ce siècle. Les chefs de ce siècle.
Quelle est leur particularité?
Parce que les chefs de ce siècle, ils sont experts dans l'art d'aveugler le cœur des gens.
Ils sont experts dans l'art d'aveugler le cœur des gens.
Sur quoi vous pouvez prêcher Jésus à certaines personnes, mais leur cœur reste bloqué.
Alléluia. Vous pouvez prêcher l'évangile à quelqu'un qui vous regarde comme si vous étiez un phobie. Il n'a pas votre temps. Ah, pardon, laisse. Ça ne passe pas.
Alléluia. Les chefs de ce siècle.
C'est eux qui élaborent les stratégies d'aveuglement.
Les stratégies de perdition. Pour détruire l'humain que Dieu a bâti.
Alléluia.
Et t'empêcher d'atteindre les objectifs de Dieu pour ta vie, pour ta destinée.
Alléluia.
Un autre ennemi caché. Les serpents spirituels.
Oui, bien aimé.
Les serpents spirituels sont là pour mordre tous ceux qui perdent Dieu, qui perdent le Seigneur Jésus du regard.
Alléluia.
Qui perdent le Seigneur Jésus du regard. C'est les serpents spirituels, ils opèrent sur la forme, ils mettent dans la vie des hommes le doute, la culpabilité, les choses comme ça.
Alléluia.
Rappelez-vous dans le désert, quand Moïse a levé le serpent des reins, Dieu va lui dire quoi? Que demande au peuple de regarder le serpent. Quand ils vont regarder le serpent, ceux qui vont les mordre, ils ne mourront pas. Mais dès qu'ils vont perdre de regard la croix des reins, le venin du serpent va les tuer.
Alléluia.
Alors, chaque fois que tu perds le Seigneur Jésus, du regard dans la course de ta destinée, le poison enrobe ta vie. La foi pas, la culpabilité, l'accusation, la colère, le manque de foi, l'amour de la maison de Dieu diminue dans ta vie. Amen. Tu commences à trouver des raisons pour ne pas venir à l'église. Beaucoup de personnes se retrouvent dans ce genre de situation. Alléluia. Quand tu perds du regard le Seigneur et que ton regard est maintenant fixé sur les hommes et sur les circonstances de ta vie, tu as échoué. Tu es déjà victime. Tu es victime. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ne perds jamais le Seigneur du regard. Ne perds jamais le Seigneur du regard. Tu perds une seule minute. Rappelez-vous de Pierre, il a perdu une seule minute. Il s'est retrouvé où? Dans les eaux. Dans les eaux. Enveloppé dans les eaux. Alléluia. Ensuite, un autre. Et là, je vais être un peu plus... Je vais m'arrêter ici parce que l'autre, c'est très, très important. C'est ce que j'appelle... C'est ce qu'on appelle les implants. Les implants. Aujourd'hui, les femmes connaissent ce qu'on appelle les implants. Puisqu'elles utilisent les implants mammaires, les implants fessiers. Alléluia. Pour augmenter leurs fesses. Pour augmenter leur poitrine. Hein? C'est ça, non? Voilà. Donc, on met les implants partout là. Les implants, bien aimé, c'est quoi en réalité? Ce sont des matériaux ou des entités spirituelles qui incube le corps d'une personne, qui enveloppe le corps d'une personne. Alléluia. Ce sont des matériaux physiques qui ont été dématérialisés sur le plan physique et qui ont été introduits sur le plan spirituel pour habiter le corps de certaines personnes. C'est pourquoi il y a des gens, comme vous allez entendre, ils vont vous dire, je sens quelque chose marcher dans mon corps. Alléluia. En réalité, on va dire, mais il y a un serpent dans ton ventre. Comment le serpent peut entrer? Il est entré par quelle porte? Alléluia. C'est un implant. On a dématérialisé cela. La vérité dans le corps. Il y a des gens qu'on a dématérialisé des aiguilles. On a fait rentrer ça dans leur corps. Quand ils rêvent, ils sentent des aiguilles piquer le corps. Ils sentent des choses qui le piquent à l'intérieur de son corps. Alors, tu vas aller à l'hôpital, on va te passer au scanner, on ne va rien voir. Mais tu souffres. J'ai le témoin d'une dame qu'on avait introduit la tête d'un chien dans ses parties intimes. Chaque fois qu'elle était sur le point de féconder, le chien lapait le truc et c'était fini. L'œuf partait et elle perdait. Jusqu'à ce que Dieu a révélé à cet homme de Dieu qu'il y a une tête des chiens qu'on a mis dans ses parties intimes. C'est comme ça qu'on a prié. Elle est tombée, elle a fait mine d'accoucher. Mais elle a couché. Sur le plan physique, on voyait l'action du pousser. Mais sur le plan spirituel, la tête du chien était expulsée. Parce que c'est une réalité spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les sorciers peuvent dématérialiser n'importe quel objet et le faire rentrer dans le corps d'une personne. Alléluia. Alors, regardez. Je prends cette eau. C'est de l'eau normale. Amen. Mais c'est une eau physique, n'est-ce pas? Alors, par la foi, je prie. Je déclare que ça devient du sang. Je dématérialise ceci. Ça devient du sang. Je te donne. Mais une minute avant, je te donne, tu bois, il n'y a rien, c'est de l'eau. Mais la minute d'après, je dis, bois, tu ne veux plus. Parce que sur le plan spirituel, ce n'est plus de l'eau, mais c'est quoi? Nous le faisons tout le temps. Alors, si les enfants de Dieu, mais quand nous le faisons, on ne réalise pas. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc, je suis en train de vous faire comprendre que beaucoup d'enfants, beaucoup de sorciers font cela pour nuire la santé de beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia.
Vous allez voir des champs avoir des couches de nuit. Mais le résultat des couches de nuit, c'est quoi? C'est qu'il y a une imprégnation, c'est-à-dire qu'il y a une fécondation. Alléluia. La substance qui sort de là, c'est dématérialise sur le plan spirituel et rentre dans le corps de la femme avec qui a eu ce contact. Et ça devient dans son corps quoi? Du fibrome, des kystes. Maintenant, à l'hôpital, on découvre quoi? Des masses dans son ventre. Qui ont pour but de quoi? De combattre sa santé physique. Je prie pour toi. Tout implant qui a été projeté depuis le royaume des ténèbres et qui vit depuis dans ton corps, qui vit depuis dans ton sang, qui vit depuis dans tes artères, dans une partie quelconque de ta vie, je commande que cela prenne feu au nom de Jésus. Je commande que cela prenne feu au nom de Jésus. Je commande que cela prenne feu au nom de Jésus. Je commande que cela prenne feu au nom de Jésus. Si vous lisez le livre de Rebecca Brown, Préparer la guerre, elle explique cette histoire des implants sataniques beaucoup là à l'intérieur. Alléluia. Elle explique le phénomène des implants. Parce qu'elle prie pour une jeune fille qui avait des implants à l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer. Je ne vais pas citer la religion pour ne pas créer la confusion. Mais il y a une certaine religion qui fait que les gens, quand ils sont dans cette religion-là, ils écrivent des écritures et puis ils lavent l'écriture, ils boivent l'eau. Maintenant, quel est le but de boire cela? En réalité, chaque fois qu'ils boivent de cette eau, c'est un peu ce que la parole de Dieu dit, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque fois que tu médites la parole de Dieu, tu manges la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu manges la parole de Dieu. Tu manges. C'est ça que Ézéchiel va voir en vision où Dieu va lui donner le rouleau de manger. Jean va manger le rouleau. Daniel va manger. Amen. Ces personnes vont manger. Ce que toi, tu dois manger chaque matin quand tu médites la parole. Alléluia. Maintenant, de l'autre côté, le diable aussi a copié le même principe. Et dans sa religion, dans ces religions-là, les gens écrivent, nettoient, boivent. Maintenant, au lieu que ça produit la vie, parce que ceci produit la vie dans ton corps, ça produit la mort le jour où tu décides d'abandonner. Alléluia. Ça produit la mort. Ces écritures deviennent des flèches et attaquent ton corps, attaquent ta santé, attaquent ta vie. Et soyez ensemble. Je prie pour toi. Tout est plein dans ton corps, au nom de Jésus, qui est au-dessus de tout autre nom, le Fils de Dieu, que cet implant soit détruit au nom de Jésus, que ces implants soient détruits au nom de Jésus, que ces implants soient détruits au nom de Jésus, que ces implants soient détruits au nom de Jésus. Maintenant, je vais rester sur les implants parce que je vais prier spécifiquement pour chacun de vous. Amen. Par rapport aux implants. Par rapport aux implants, on va terminer avec ça. Parce que j'ai vu beaucoup de gens avoir des implants étranges dans leur corps. Parfois, ces implants vont être injectés dans le corps de certaines personnes et on va mettre des sceaux. Les sceaux vont venir comment? Les sceaux vont venir au moment où les personnes vont mettre des tatouages. C'est les sceaux. Ça vient sceller l'implant. Les sceaux vont venir comment? Par le blindage. Alléluia. Parce que quand tu es blind, on met quelque chose à l'intérieur qui marche dans ton corps. Et on est ensemble. Alors, chaque fois que tu as une marque, on a scellé l'implant. De manière à ce que ça ne sort plus. Ça ne doit plus sortir. Ça ne doit plus sortir de ton corps. Ça doit marcher dans ton corps. Ça doit marcher dans nous. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne devons pas avoir des marques sur notre corps parce que nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Nous avons la marque du Saint-Esprit en nous, le sceau du Saint-Esprit. Mais c'est un saut qui est spirituel. Ce n'est pas physique. Alléluia. Ce n'est pas physique. Malheureusement, dans nos ignorances, nos moments d'égarement de nous et de nos familles, on est allé dans beaucoup d'endroits pour chercher une soi-disant protection. Et on a mis des choses dans notre sang. Parce que quand on te blesse, à la fin, on mélange un produit, on frotte. Parfois, ça pique, n'est-ce pas? Ça pique. Tu sens ça. Ça rentre dans ton sang. Ça devient un avec ton sang. Et tu te dis, bon, ça va. Amen. Mais c'est des plans qu'on a introduits dans ton corps qui a pour but de te contrôler dans un domaine spécifique, qui a pour but d'influencer un domaine spécifique de ta vie. Alléluia.